l'épître de Jacques, là où on l'avait arrêté. Alors, j'espère qu'on vous approchera, vous la prenez dans le même ordre que nous. Sinon, bah, ça, je tombe à côté de la plaque. Mais donc, on va prendre l'épître de Jacques à partir du chapitre 2, des versets 14 à 26. Seigneur, notre Dieu, je me remets entre tes mains ce matin parce que tu es digne de recevoir comme notre louange. Mais je te prie pour moi, pour que tu m'aides à transmettre ce que tu as à nous dire ce matin. Et vraiment, que nous puissions aussi recevoir ce que tu veux nous dire et nous apprendre ce matin. Alors, avec Jacques, dans ce petit passage que nous allons lire, eh bien, même si vous vous endormez quelques minutes, vous ne pouvez pas passer à côté du message de Jacques. Donc. Et puis en plus, je dirais pour commencer que ce message est très facile à comprendre. Il n'y a pas de grande difficulté dans ce message. Le problème, c'est qu'avec la Bible, quand il y a des messages faciles à comprendre, ils sont souvent beaucoup plus difficiles à mettre en pratique. Alors laissez-moi commencer par une petite parabole moderne. Un voyageur sortait de la gare de Lyon à Paris pour découvrir justement Paris. Sur son chemin, il aperçoit une femme pauvre, grelottante, tenant son enfant dans les bras. Ils avaient faim et leurs vêtements ne les protégeaient pas du froid. Ému, le voyageur s'approcha et lui dit « Que le Seigneur te bénisse, fais-lui confiance pour ta subsistance, c'est un Dieu d'amour. » Puis il reprit sa route, sans rien faire, sans rien offrir, d'autre que ses paroles. Peu après, un autre homme passa. Voyant la détresse de la mère et de l'enfant, il s'arrêta, il partagea son pain avec eux, elle leur donna son manteau. Touchés, les deux pauvres levèrent les yeux au ciel et rendirent gloire à Dieu pour cet homme qui les avait secourus. Le premier voyageur avait exprimé une foi par des mots, le second, lui, avait manifesté une foi vivante, concrète, qui agit. Et cette scène ne vous rappelle-t-elle pas une parabole bien connue ? Hein? Bon samaritain, pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même un peu le même esprit. Voilà. Imaginez maintenant que j'affirme que je cours aussi vite qu'Usain Bolt. J'affirme ça, mais que vous ne me voyez jamais courir. Est-ce que vous me croirez? Pas vraiment. Hein? De toute façon, vous avez raison, je ne cours pas. Je suis très très loin de courir aussi vite d'Usain Bolt. Imaginez maintenant une personne qui dit qu'il est pompier, mais qui met jamais l'uniforme de pompier, qui ne secourt jamais personne, peut-on vraiment dire qu'il est pompier? Pas vraiment. Enfin, il y a quelques années, à la fin d'un culte à Brignoux, un homme de l'Église catholique est venu assister à la prédication, il m'a interpellé. Le message portait sur un passage d'une épître de Paul. Et il m'a dit à la fin du culte, dans les églises évangéliques, vous prêchez toujours Paul ou Jean en affirmant que seule la foi sauve, mais les actes comptent aussi pour le salut. Avait-il raison? On va voir. Est-ce que Paul, finalement, et Jacques se contredisent? On va voir ça aussi. Alors, j'espère qu'on va... Alors, on va commencer par la lecture. Ça y est, ça passe. Lisons Jacques, chapitre 2. Versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, alors là, imaginez que je suis Jacques, bon, toute proportion gardée, hein, et que je m'adresse à vous par ces mots. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques. À quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Continuons. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin ? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors, l'idée centrale de ce message, c'est une foi authentique se manifeste par des actes. Et nous allons voir cela en trois points. Une foi sans les œuvres peut-elle sauver ? Qu'est-ce qu'une foi qui sauve ? Et enfin, Jacques et Paul se contredisent-ils ? Commençons par une foi sans les œuvres peut-elle sauver ? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de l'épître de Jacques, on pourrait dire que Jacques a tendance quand même à nous remonter les bretelles. Je ne sais pas si c'est... Et là, il faut se préparer à un gros remontage de bretelles. Hein ? Voilà. Alors, au verset 14, Jacques interpelle avec force ses frères et sœurs en Christ. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle le sauver ?» Il s'adresse à nous, là. Hein ? Ou plutôt, est-ce que ce genre de foi peut-elle sauver ? Ce genre de foi peut-elle sauver ? Bon, qu'est-ce qu'on répondrait à Jacques s'il était là, parmi nous ? Est-ce que ce genre de foi peut sauver ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Pas non. C'est d'autant plus non que la formule grecque suggère une réponse négative. Donc, la façon dont Jacques pose la question implique la réponse. Non, une foi sans les œuvres ne sauve pas. Alors, Jacques martèle cette vérité. Il la martèle vraiment. Hein, si au cas où, c'est pour ça que vous pouvez vous endormir. Si vous avez loupé un coup de marteau, vous aurez le second. Hein, vous pouvez, hein, mais donc, il insiste sur cette question-là. Jacques martèle cette vérité tout au long de son épître, et en particulier dans ce passage, soulignant que la foi authentique se manifeste par des actions concrètes. Par exemple, il dit au verset 15 et 16, justement, c'est la petite parabole de l'introduction, « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous lui dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il » Est-ce que vous vous rappelez, il y a une publicité qui passe parfois à la télé où vous avez une personne qui est perdue et qui cherche la gare. Et elle interpelle quelqu'un. « Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous savez où se trouve la gare ?» Et le gars lui répond « Oui » et il s'en va. Hein, vous voyez cette publicité ? Une réponse sans aide concrète est aussi vide, absurde, qu'une foi sans action. Puis Jacques conclut au verset 17, « Il en va de même pour la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » Il va utiliser deux fois le mot « morte » dans ce court passage. Autrement dit, une foi sans acte concret est vide, inutile, morte. Elle n'est qu'une adhésion intellectuelle. Une profession de foi, on pourrait dire aussi, sans substance. Mais Jacques n'en a pas fini avec la foi sans les actes. Il imagine un dialogue au verset 18. Jacques insiste sur le fait que ces œuvres ne sont pas le moyen de gagner le salut, mais elles sont la preuve visible de la foi. Il ne faut pas se méprendre dans ce que Jacques dit. Il ne dit pas que la foi... Mais désolé. Il ne dit pas que la foi ne sert à rien. Hein, il ne dit pas ça. Il ne faudrait pas lui attribuer ce genre de raisonnement. Alors, il nous décrit un petit dialogue qu'il a créé, imaginé. « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je montrerai ma foi. Hein » Il dit bien que la foi est utile, mais il veut montrer sa foi par les œuvres. La foi est indispensable au salut. La foi et les œuvres sont indissociable. La foi nous pousse à agir et nos actes témoignent de notre foi. La foi authentique ne se contente pas de mots, elle se manifeste dans la vie quotidienne. Enfin, au verset 19, encore un coup de marteau sur les clous. « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, elles tremblent. » Alors ce verset fait écho au Shema d'Israël. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Si, ce qu'il nous dit Jacques, là, il nous dit, bon, les démons, ils croient en Dieu. Ils ont une doctrine impeccable sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit. Et pour autant, ils sont rebelles. Ils haïssent Dieu. Leur foi est intellectuelle, mais leurs actes sont vraiment rebelles. Jacques ne nous lâche pas. Il continue. Infatigable sur la question, insiste encore au verset 20. « Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? Ignorer cette vérité, c'est manquer de sagesse, c'est manquer de discernement, c'est manquer d'intelligence. Et au cas où son auditoire n'aurait toujours pas compris, il donne un dernier coup de massue au verset 26. « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une foi sans les actes, sans les œuvres, est aussi inerte qu'un corps sans vie. » Ah, l'image est forte. Une foi sans les œuvres ou sans les actes est aussi inerte qu'un corps sans vie. Bon, on comprend bien, évidemment, que Jacques ne parle pas ici d'une foi vivante, enracinée dans l'amour et l'obéissance, mais une foi factice, uniquement revendiquée, non prouvée, non démontrée, réduite à une simple adhésion intellectuelle sans acte concret. Là, ça me fait penser aux hommes politiques, ça, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin. En conclusion de ce premier point, la question que pose Jacques au verset 14 peut être paraphrasée ainsi. Je vais la redire avec les mots d'aujourd'hui. Est-ce que la foi d'une personne qui se contente de l'affirmation d'un certain nombre de vérités théologiques, comme croire en Jésus, par exemple, ou en Dieu, ou en Saint-Esprit, mais sans les mettre en œuvre dans des actes de charité ou d'hospitalité, sera suffisante pour lui assurer un jugement favorable de la part de Dieu au dernier jour? C'était long, mais c'est tout ce qui est dit. Eh bien, la réponse de Jacques est claire, nette, précise, non. La foi sans les œuvres est inutile. Elle ne sauve pas car elle ne produit aucun fruit concret et ne manifeste pas l'amour du prochain. Jacques dénonce une foi déclarative, une simple affirmation intellectuelle, comme on entend souvent. Il y a beaucoup de gens qui sont des humanistes, quand on les entend parler, « Oh, c'est ça, des humanistes, ils prennent soin des pauvres. » Puis quand on regarde en pratique, je ne dis pas tous, hein, une bonne partie d'entre eux, c'est juste factice, c'est juste de l'hypocrisie. Une simple affirmation intellectuelle ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'actes. Les œuvres sont la preuve visible de la foi. Elles rendent la foi tangible et crédible aux yeux des autres. Même les démons croient, mais n'obéissent pas. La connaissance de Dieu, croire en Dieu, d'une certaine façon, sans une transformation du cœur, ne sert à rien. Une foi vivante agit, elle sauve, elle nourrit, car elle nourrit, réchauffe, console, elle reflète le caractère de Christ dans la vie quotidienne. Bon, là, je pense que vous avez compris. Qui n'a pas compris ? Hein ? Bon, on a bien compris l'importance de la foi authentique. On va passer maintenant à la manière dont cette foi se manifeste à travers nos actions, puisque, comme le martèle Jacques, une foi sans œuvre est morte, eh bien, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une foi qui sauve. Alors, Jacques nous donne deux exemples. Au verset 21 à 25, on peut lire d'abord l'histoire d'Abraham. « Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Elle a été appelée ami de Dieu. » Autre histoire, celle de Rahab. Vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes ? Lorsqu'elle a accueilli les messagers, elle les a fait partir par un autre chemin. Alors moi, j'ai réfléchi, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'Abraham. C'est pas facile, hein, parce qu'on est au 21e siècle, lui, et ça fait 3000 ans, hein, à peu près. Même plus, oui, 3000 ans, c'est ça. Alors je me suis dit, mais attends, Dieu m'a affirmé que Isaac aurait une postérité innombrable. Voilà qu'il me demande de sacrifier mon enfant alors qu'il s'est énervé contre Caïn quand il a tué Abel. Et il sait pas, Abraham, à l'époque, ne savait pas encore, mais le pays de Canaan a été. Les habitants de Canaan ont été chassés par Israël, justement parce qu'ils pratiquaient des sacrifices humains. Et il me demande de sacrifier mon fils. Moi, je pense que moi, j'aurais été complètement décontenancé, quoi. Je me dis, mais attends, là, je suis perdu. Et puis, il a dû se dire, probablement, si Dieu sait ce qu'il fait. S'il me demande de faire ça, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Peut-être même va-t-il ressusciter Isaac. Et voilà qu'il, j'explique l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, voilà qu'il il commence à sacrifier son fils, il, comme on le voit sur l'image précédente, ici. Et puis, au moment de le sacrifier, un ange lui tient le bras et l'empêche de le faire. Mais il a eu confiance en Dieu, même si ça lui a paru absurde. Hein, vous voyez, c'est... Ce que je vais vous montrer, c'est l'absurdité de la demande ou la difficulté de la demande est l'obéissance d'Abraham. Et puis Rahab, maintenant. Rahab était une... Bon, Jacques nous dit une aubergiste, probablement prostituée, à Jéricho. Et on s'apprête à conquérir Canaan. Josué, quand on veut faire la guerre, on envoie des espions, histoire de voir quelle est la force de l'ennemi, quels sont ses points faibles et points forts. Et donc, ils envoient deux espions à Jéricho, et il se retrouve à l'auberge, à proximité d'une prostituée. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça se passe comme ça. Et puis, évidemment, dans une ville comme Jéricho, il y a des soldats, il y a des sentinelles, et ils apprennent qu'il y a des espions à Jéricho. Alors, ils le cherchent partout. Et Rahab se dit, ouais, ces gens ont quelque chose de particulier, je vais les cacher. Et Rahab, au risque de mourir. Qu'est-ce qu'on fait à un traître ? Eh ben, en général, on le tue. Parfois même lui et toute sa famille. Et donc, Rahab les cache et elle a compris que c'est ce qui va se passer, la défaite de Jéricho, et c'est quelque chose d'important. Et elle leur demande, ok, je vous cache là. Mais quand vous viendrez pour conquérir cette ville, sauvez-moi, gardez-moi avec vous. Hein, c'est à peu près, en substance, c'est tout ce qu'elle dit. Mais Rahab a vraiment risqué sa vie. Ni l'un, ni Abraham, ni Rahab n'ont prouvé leur foi par des paroles, ou même par des rituels, mais par des actes concrets d'obéissance, difficiles, mettant en jeu ce qu'ils avaient de plus précieux, la vie de son fils pour l'un et sa propre vie pour l'autre. Et c'est vrai que ça fait penser à l'Église persécutée qui, eux aussi, sont confrontés à des difficultés incroyables, des choix incroyables. Alors, nous, on célébrera, enfin, on fera le week-end à Brignoux le 30 novembre de l'Église persécutée, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à eux. Ou ce que disait Nathalie tout à l'heure, hein, dans les moments difficiles qu'on ne comprend pas, Dieu sait ce qu'il fait. Alors, maintenant qu'on a vu Abraham, Rahab, dans le texte, Abraham fut appelé ami de Dieu, au verset 23. Ce qui fait écho à un passage de l'évangile de Jean. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Notez au passage que Abraham comme Rahab appartiennent tous les deux à la généalogie de Jésus selon Matthieu. Alors, je pense que la dernière fois, vous avez dû voir au verset 8, au début du chapitre 2, « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Cette loi fait référence au commandement biblique, évidemment, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » C'est au verset 8 que la loi royale. Et ça me fait penser à ce chant, je ne sais pas si vous vous rappelez, un chant qu'on chantait autrefois. C'est à l'amour qu'on manifestera les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes chrétiens. Cette loi royale, c'est la loi de l'amour. Elle est au cœur de l'éthique chrétienne. C'est un appel à l'amour, mais pas n'importe quel amour, un amour inconditionnel, universel, sans discrimination. Elle est royale non seulement par son origine divine, mais aussi par sa dignité et sa centralité dans la vie chrétienne. Jacques en propose des applications concrètes dans les chapitres 1 à 5 de son épître. Alors, vous souvenez-vous de ce que Jacques propose comme application de la loi royale dans les deux premiers chapitres, si on inclut aussi ce qu'on vient de lire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous souvenez de cette loi royale, ce que Jacques nous recommande de faire dans les chapitres précédents? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent?
Pas de favoritisme.
Pas de favoritisme, oui. Alors ça, et pour ceux qui parlent beaucoup? Non, ça c'est plus tard. Écoutez avant de parler, et pas de favoritisme, effectivement. Et puis là, dans notre chapitre, dans ce qu'on vient de lire, là, faire preuve de compassion, aider les plus démunis. Voilà ce que, quand même, en filigrane, le texte nous dit ce matin. Et en même temps, il nous dit faire confiance à Dieu pour sa vie, c'est la foi. Il ne nous dit pas d'abandonner la foi, il nous dit de garder la foi. Et puis alors, on va faire un petit survol en guise, je dirais, d'apéritif sur ce qui suit, mais je ne vais pas du tout en parler. Maîtriser sa langue, donc quelqu'un en a parlé, et rejeter la calomnie. Douceur, compassion à la place de la jalousie et de la rivalité. Rejeter l'égocentrisme, l'égoïsme, l'amour du monde. Bon, on verra ça plus tard, ce que ça veut dire. Et des richesses, l'orgueil et l'avantardisme. Voilà tout ce que nous dit Jacques sur cette loi royale que lui, il veut. Il voit, il veut la mettre en pratique, lui. Il est concret, Jacques. Voilà les fruits d'une foi qui sauve. Tout un programme pratique, non? Pour conclure ce deuxième point, une foi qui sauve est une foi qui agit en imitant le Maître Jésus. Elle consiste à obéir avec confiance, même quand cela coûte. Comme Jésus dans le désert ou à Gethsemane, comme Abraham et Rahab qui ont fait des choix hyper risqués. La foi qui sauve est active, elle se manifeste par des actes d'obéissance et de compassion, comme Jésus qui a obéi au Père jusqu'à la mort, mais aussi comme Abraham, prêt à sacrifier son fils Isaac dans des conditions mais incroyables, presque atroces. On n'ose pas le dire parce que c'est un commandement de Dieu, mais voilà. La loi royale est centrale. Aimer son prochain comme soi-même est le cœur de la foi chrétienne. Et Jésus en est l'incarnation de cette loi royale. Les fruits de la foi sont visibles, comme on l'a vu au début du chapitre. Alors, j'ai fait une petite sélection, mais qui n'est pas exhaustive. Écoute de l'autre, justice, ne pas faire cas des personnes, aide aux pauvres, maîtrise de soi, rejet de l'orgueil. Ça, c'est ce qu'on a dans l'épître de Jacques, mais voilà quelques éléments. Comme Jésus était lui-même humble et doux de cœur, comme il l'a montré avec les malades, avec la Samaritaine ou la femme adultère, par exemple. Bon, nous venons de voir ensemble que la foi qui sauve est une foi qui agit en appliquant le message du Christ. Aimez-vous les uns les autres. Continuons avec le dernier point. Est-ce que Jacques et Paul, finalement, se contredisent? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le message de Paul et de Jacques se contredisent? Qui pense oui? Qui pense non? Tous, quasiment. Vous avez raison, je pense. Mais on va voir quand même, on ne sait jamais. On va quand même vérifier. À première vue, leurs discours semblent opposés. J'ai choisi deux versets. Bon, évidemment, le deuxième, c'est celui qu'on a lu tout à l'heure. Paul affirme que la foi seule justifie, par exemple en Romains 5. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis Jacques, on l'a vu tout à l'heure, à quoi bon, mes frères, dire qu'on a la foi si on n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver dans ce cas? Si on regarde juste ces deux versets, on se dit, il y a quand même une dissonance cognitive là-dedans, hein, comme on dirait aujourd'hui. Petite dissonance. Mais en réalité, ils ne se contredisent pas. Alors vous le savez, vous en doutiez, hein, mais je préfère vous rassurer sur ce sujet-là. Ils parlent à des publics, tous les deux parlent à des publics différents et utilisent évidemment des langages adaptés à leur contexte. Jacques s'adresse à des croyants comme nous, déjà engagés, mais parfois incohérents dans leur comportement. Donc il adopte un ton pratique et moral, éthique. Paul, lui, s'adresse souvent à des convertis récents issus du paganisme ou du judaïsme, et ces derniers étant parfois tentés par un retour au rite juif, comme par exemple la circoncision. Il développe une pensée théologique fondée sur la grâce et la foi seule. Paul et Jacques utilisent les mêmes mots pour donner des éclairages différents et complémentaires. Tout d'abord concernant la foi. Pour Paul, la foi est un abandon total à Dieu, une confiance vivante en Christ. Pour Jacques, c'est un peu plus compliqué. Le mot foi peut désigner la confiance en Dieu, mais aussi la foi chrétienne en général, ou une simple croyance intellectuelle, comme on l'a vu dans notre passage. Et les œuvres. Alors pour Paul, ce sont les œuvres de la loi, comme la circoncision, incapables de justifier. Pour Jacques, ce sont les actes visibles qui découlent naturellement d'une foi authentique, hein, puisqu'il dira « la foi sans les œuvres est morte ». Et même Paul reconnaît que la foi sans les œuvres est morte. En effet, en Jésus-Christ, dans Galates 5, verset 6, « ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. » Voilà. Jacques ne rejette pas la foi en Christ. Au contraire, lorsqu'il dit au verset 18, on l'a déjà souligné tout à l'heure, « Par mes œuvres, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Pour lui, les œuvres sont les conséquences de la foi. Paul, en Galates 5, 6, condamne lui aussi, avec Jacques, une foi réduite à une opinion sans engagement ni transformation. Voilà. Je pense que vous êtes rassurés. Bon, Jacques et Paul ne s'opposent pas. Paul parle de la justification devant Dieu, Romains 5, 1, et on pourrait dire que Jacques, lui, parle plutôt de la justification devant les hommes, par des fruits visibles de la foi. Les deux ne s'opposent pas, mais ils se complètent. Paul insiste sur la foi comme fondement du salut, mais sans les rites de la loi, au cas où on pourrait se méprendre sur ce que sont les œuvres. Et Jacques insiste sur les fruits visibles de la foi, preuve de stabilité, si on pouvait se méprendre sur ce qu'est la foi. Pour Paul, la foi véritable agit par l'amour, et pour Jacques, une foi sans transformation intérieure est morte, c'est ce qu'on vient de lire. Donc on voit, on a des discours semblables, hein, en fait, mais qui nous parlent avec des angles un peu différents, parce que les auditoires sont différents. Paul et Jacques, loin de se contredire, abordent la relation entre foi et œuvre selon des angles différents, ce que je viens de dire. Ce rapprochement dissipe toute contradiction apparente et met en lumière, une fois encore, l'harmonie profonde du message biblique et de son unité. Donc pour conclure, rappelons que la Bible est reconnue comme inspirée par Dieu, ce qui garantit l'unité et la cohérence de son message. Ainsi, les tensions ou contradictions apparentes ne doivent pas être perçues comme des erreurs, mais comme des invitations à creuser davantage, à affiner notre lecture et à mieux saisir la richesse de la révélation divine. Ça, c'est une citation, je ne sais plus de qui, mais ce que nous avons exploré ensemble ce matin illustre parfaitement cette démarche. Plutôt que d'opposer les textes de Paul et de Jacques, nous les avons mis en perspective, en dialogue, découvrant une profonde harmonie entre foi et œuvre. Alors revenons à notre texte du jour. Le discours de Jacques est très clair et facile à comprendre. Jacques ne nous invite pas à choisir entre la foi et les œuvres, mais à vivre une foi authentique, visible, incarnée, qui produit des œuvres. Une foi qui sauve n'est pas une simple adhésion intellectuelle, mais une confiance active qui transforme nos paroles, nos choix et nos relations. Paul et Jacques, loin de se contredire, nous rappellent ensemble que la source du salut, c'est la foi en Christ seul. Mais cette foi, si elle est réelle, agit par l'amour, obéit à la loi royale de l'amour, produit des fruits visibles. Et Paul nous parle souvent des fruits, et en particulier dans Galates 5, 22. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Pas facile, hein? Enfin, pour moi, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si pour vous, c'est facile. Il y a d'ailleurs, pour quelqu'un, c'est facile. J'aimerais bien venir prendre des conseils. Alors, si quelqu'un me dit, bah non, pour moi, tout ça, c'est très facile, vous venez me voir à la fin, vous me dites, je vais t'expliquer. Parce que moi j'avoue, j'ai vraiment du mal à mettre tout ça en pratique. Alors, cette semaine, inspirée, je vais faire un petit défi, cette semaine inspirée par l'épître de Jacques, réfléchissons à concrètement montrer notre foi par nos actions. Alors, j'en ai pris un petit florilège, mais vous pouvez en trouver d'autres. Hein. En aidant, en écoutant avant de parler, c'est pour moi ça, écouter avant de parler, j'ai tendance à parler avant d'écouter, et à solutionner les problèmes avant de les avoir entendus. Servir, aimer sans condition, en comptant, non pas sur nos propres capacités, parce que c'est pas la peine, mais en comptant sur l'aide du Saint-Esprit. Obéir à Dieu avec confiance, même si c'est dur, même si l'épreuve est là, même si la souffrance est là, on garde confiance, parce qu'il sait ce qu'il fait, comme avec Abraham. Veillez à ses paroles, hein, là c'est plutôt ce qu'on verra, après, dans les suites, dans les chapitres suivants, veillez à nos paroles, rejetez la calomnie, je pense que c'est très important, et malheureusement, c'est assez répandu dans nos milieux chrétiens, parce qu'on a parfois tendance à regarder ce qui ne va pas, et ça déborde vite vers la calomnie. Ou une forme de calomnie. C'est pas aussi clair que dans le monde, mais c'est parfois une forme de calomnie. Cultivez la douceur. Jésus était doux et humble de cœur. Refusez l'indifférence, le favoritisme et surtout l'égoïsme. Voilà un petit programme pour la semaine qu'on pourra même étendre la semaine suivante, voire la semaine d'après, voire toute l'année, tout le reste de l'année. Hein? Voilà un bon programme pour nous, pour que nous puissions vraiment réfléchir à ce que Jacques nous dit, à nous chrétiens qui sommes là depuis des années, et qui, il faut le reconnaître, on a des difficultés. Je pense que nous tous, nous avons des difficultés à appliquer ces choses, à appliquer la loi royale qu'est l'amour. Mais voilà, on va regarder, on va persévérer, hein, on va continuer avec encouragé par cet épître. On va continuer dans cette direction et on va essayer de la mettre en pratique. Et je termine par un dernier coup de marteau sur le clou. La foi véritable ne se contente pas de croire. Elle marche, agit, aime, elle est vivante, parce que c'est la deuxième partie que je voulais souligner. Elle est vivante parce qu'elle reflète celui qui donne la vie. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous éclaire et nous guide. En ce jour, nous avons mesuré l'importance d'une foi vivante, une foi qui se manifeste par des actes concrets, des actes d'amour ou de compassion et de compassion. Nous te prions de nous aider à mettre en pratique ce que nous avons appris aujourd'hui. Que notre foi ne soit pas seulement des mots, mais qu'elles se traduisent par des actions qui reflètent ton amour et ta grâce. Donne-nous la force de servir les autres avec humilité et dévouement, comme Abraham et Rahab l'ont fait, en obéissant à ta volonté, même lorsque cela est difficile, même lorsque ça coûte. Seigneur, que notre foi soit visible à travers nos œuvres, afin que ceux qui nous entourent puissent voir ta lumière briller en nous. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à écouter avant de parler, à rejeter le favoritisme et à faire preuve de compassion vers les plus démunis. Nous te demandons de bénir notre communauté et de nous guider chaque jour dans nos actions, que nous puissions être des témoins fidèles de ton amour et de ta miséricorde. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.